également l'ABA, mais apparemment l'ABA ils sont partis aussi, c'est bon. Quelques annonces avant de poursuivre par la prédication. Déjà, vous avez les salutations de Julien, notre pasteur, qui, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, est exceptionnellement en déplacement en Bretagne. Un rappel pour le culte commun du 5 octobre. Vous êtes invités à vous inscrire en flashant le QR code sur les affiches qui sont dans le haut de l'église. Le QR code, il est en bas ici, sur les affiches. Vous avez reçu aussi un WhatsApp, je crois. Hein, et via ce WhatsApp, vous avez un lien sur lequel, comment dire, cliquer, hein, qui vous guidera, mais qui vous guidera où ? Que vous guidez sur le QR code. Hein. Alors actuellement, donc, moi je me suis inscrit, c'était en début de semaine, sur les 500 places disponibles, il y en avait encore 410, ce qui veut dire qu'il n'y a que 90 inscrits. Donc allez-y, hein, inscrivez-vous. Alors, cette inscription, c'est là pour que les organisateurs puissent savoir d'avance à peu près, hein, le nombre de personnes qu'il y aura, ce qui leur permettra pour eux de mieux s'organiser. Pensons à eux, hein, que c'est jamais facile d'organiser un tel événement. Ok ? Voilà, tout à fait. Ouais. Ce sera fermé ici, absolument. Voilà. Bon ben, ceux qui ne savent pas, ce n'est pas grave. Hein. S'il n'y a que ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas inscrits, mais que tous ceux qui savent s'inscrivent, ce sera déjà drôlement bien. Ensuite, le repas en faveur d'un orphelinat pour le Togo. Repas le 12 octobre prochain. Les flyers sont à l'entrée. Donc inscrivez-vous vers Daniel. Daniel, qui est là-bas. Vous l'avez vu ? Donc, c'est le 12 octobre, hein ? C'est bientôt. Nous sommes déjà le 21 septembre. Hein ? Donc, c'est dans 3 semaines, quoi, c'est ça ? Hein ? Eh oui, à peu près. 3 semaines. Hein ? Donc, inscrivez-vous. Hein, pour ceux qui veulent y participer. Pour information, les activités de l'Église, groupes de maisons et autres, reprendront tranquillement à partir d'octobre, me met Julien. Tranquillement. Bon. Par contre, il y a une autre activité qui reprendra dès lundi, c'est le groupe de femmes qui reprend lundi 22 à 15h. C'est ça, Nathalie, hein? Donc, pour tout renseignement, eh bien, allez voir Nathalie. Tu peux te lever, Nathalie, que tout le monde voit. Voilà. Nathalie, c'est elle qui s'occupe du groupe de femmes et qui redémarre lundi 22 à 15h, c'est-à-dire demain. Je vous transmets les remerciements de Marie-Christine Chemina. Remerciements à toutes les personnes qui lui ont témoigné leur affection suite au décès de son mari. Autre information que j'ai eue tout à l'heure, c'est que les Genovaises, la famille Genovaise est rentrée de leur mission pour Porte Ouverte. Et ils disent que ça s'est bien passé, mais qu'ils ont peu dormi, qu'ils sont fatigués et qu'ils ne seront pas là ce matin. On les comprend. Alors, d'autres choses encore ? Oui, donc voilà. Sinon, une information importante aussi. Émile, notre jeune frère qui est là, c'est son dernier dimanche aujourd'hui ici, avant qu'ils ne partent à l'école biblique en Angleterre. Alors approche-toi, Émile, hein, et on va prier pour toi. Bernard, tu peux venir, s'il te plaît. Je regarde mes annonces quand même, voir si j'en ai pas oublié. Bernard, t'es là? J'en ai pas oublié apparemment, hein, c'est bon. Hein. J'en ai pas oublié apparemment, non? Nicolas? Ah, Bruno. Priez pour Bruno. Donc, j'ai appris ce matin que Bruno s'était défenestré, le mari de Françoise, fils d'Arlette. Et était donc hospitalisé. Alors bien sûr, il a deux vertèbres qui sont cassées, c'est ça, abîmées. Donc il est en soins intensifs au CHU. Bon, nous te prions, Père, pour Bruno, de poser ta main sur lui, de poser ta main sur son cœur et sur son corps. Merci, mon Dieu, de faire ton œuvre de guérison en lui. Merci, Seigneur, aussi, d'aider Arlette et Françoise dans ces moments difficiles, de leur apporter la paix, la consolation, Seigneur, la confiance dans celui que tu es, Père, celui qui guérit, celui qui soulage, le Dieu de l'impossible, en toute situation. Alors c'est en cela et dans ce sens que nous te remettons Bruno afin de le garder entre tes mains et de toucher son cœur également. Que toute la gloire t'en revienne, mon Dieu. Amen. Bon, je crois ne rien avoir oublié. Bien. Comme nous venons de l'évoquer lors du repas du Seigneur. Comment ? Ça enregistre ? Jésus dit : Je viens bientôt, il revient. Lorsque nous partageons le repas du Seigneur, c'est jusqu'à son retour. Donc il revient. Jésus revient bientôt. Amen. Bon. Ceux-là, ils sont contents, là. De ce côté-là, ils sont contents. C'est déjà une chose, hein. Car que répond Jean à cette proclamation ? Que répond Jean à cette proclamation de Jésus ? Amen. Viens, Seigneur Jésus. Je reviens. Jésus leur dit, je reviens. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Jésus revient. Amen. Viens, Seigneur Jésus. L'attendons-nous. Amen. Ou est-ce oui, mais pas tout de suite. Comme le peuple du temps de Noé, vous vous rappelez, dont les priorités étaient d'abord leurs préoccupations quotidiennes, matérielles, physiques. Alors à propos du retour de Jésus, vous vous rappelez quelles questions Jésus posa à propos de son retour ? Quelqu'un l'a dit. Trouvera-t-il de la foi ? Quand le Fils de l'homme viendra, c'est Jésus qui parle, trouvera-t-il la foi sur terre ? Luc 18, 8. Alors, donc, il y en a qui disent Amen, c'est bien. Mais la trouvera-t-il ? La foi, voilà un des critères essentiels que Jésus recherchera en celles et ceux qu'il enlèvera avec lui. C'est à la fois un encouragement et une mise en garde. Non ? Non, non, pas tout de suite. Sommes-nous prêts ? Sommes-nous prêts ? Notre pasteur Julien nous a déjà interpellés là-dessus le 7 septembre en faisant référence à la parabole des vierges sages et folles. Et quand on dit folles, je préfère parler des vierges insouciantes. Peut-être pas si folles que ça, mais insouciantes, oui. Alors devant ce critère majeur conditionnant notre enlèvement, on comprend mieux l'exhortation forte de Paul quand il nous dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. » Romains 10, 17. Ça veut dire « Examinez donc tous les critères. » Et tous les critères sont dans 1 Jean. Et je ne peux que vivement vous encourager à les méditer, ces critères, à examiner. Quant à Pierre, il nous dit, lui, faites tous vos efforts pour développer votre foi. 2 Pierre 1,5. Foi sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11,6. On connaît tous ces paroles. Mais les rappeler de temps en temps, ça fait du bien. Alors, sachant que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10, 17, on comprend que la foi est exclusivement fondée sur quoi ? Sur la parole de Christ, parole de Dieu. Christ étant la parole, faite chair. Autrement dit, j'écoute la parole de Christ et la foi vient. Non ? C'est ça qu'il dit là. Je me trompe ? Et plus je nourris abondamment ma foi de cette parole, plus elle progresse. Sinon, elle décline et meurt. Non ? C'est bien ça que ça veut dire. Et cette foi nourrie qui nous donne l'assurance, dit la parole, la certitude des choses qu'on espère et la démonstration, c'est-à-dire la conviction des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Cette parole nous donne l'assurance, c'est-à-dire la certitude des choses qu'on espère, et la démonstration, c'est-à-dire la conviction des choses qu'on ne voit pas. Rappelons-nous, n'est-ce pas ainsi que nous avons tous débuté dans la foi ? Une foi fondée sur la seule parole de Dieu? N'est-ce pas là-dessus que nous avons tous débuté, en fondant notre foi sur la parole de Dieu? Non? Oui? Oui? Amen? Ah. Et une foi fondée sur la seule parole de Jésus, qui dit que celui qui croira, c'est bien ça, Jésus, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais que celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, 16. Amen. Là, on a aussi les deux faces de la médaille. Et c'est bien là-dessus, sur le fait que Jésus dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, que nous avons fondé notre foi. Mais croire en quoi ? Qui croira ? Mais croira en quoi ? Juste un court rappel, deux minutes. Nous avons cru quoi ? Que nous sommes tous nés pécheurs et perdus. Non ? Romains 5, 12. Que nous étions tous voués à la colère de Dieu. Éphésiens 2, verset 3. Mais que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Romains 5, 8. Je me trompe ? Jusque-là, c'est bon ? Si je me trompe, vous levez la main. Pour le moment, ok. Puis que Jésus, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité pour notre justification. Acte 2, 32, Romains 4, 25. Qu'il est le chemin, la vérité, la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Jean 14, 6. Qu'il est la seule source de salut, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, 1 Timothée 2, 5. Il n'y en a pas d'autre. Et que s'en donner un autre ou une autre, ce serait entrer dans la bergerie comme un voleur. Jean 10, verset 1. Enfin, rappelons-nous ce que Pierre a dit à la Pentecôte. À ceux qui, bouleversés par ces paroles, vous entendez bien, ils furent bouleversés par ces paroles. Est-ce que nous sommes bouleversés par ces paroles ? Et qui, eux, lui demandèrent, « Que devons-nous faire ? Repentez-vous, dit Pierre. C'est-à-dire, tournez le dos à votre vaine manière de vivre et de penser. C'est ça, se repentir. Et, dit-il, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Et, dit-il, vous recevrez le Saint-Esprit, car Dieu vous l'a. Vous recevrez le Saint-Esprit, car Dieu vous l'a promis. Acte 2, 38. Tout est dit, hein ? Tout est dit et tellement clair. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors nous qui sommes ainsi nés de nouveau, c'est bien cela que nous avons cru sans voir. Non ? Nous avons cru sans voir. C'est-à-dire que nous avons cru sur le seul fondement de la parole de Dieu. Je me trompe aussi ? Amen. Ah, c'est bon. Là, je ne me trompe pas. Là. Je me trompe ? Non. Amen. Alors Paul nous dit, puisque ça a été notre fondement, nous dit, c'est par cette foi-là que vous avez commencé. Oui. Et c'est en cette même foi, dans la parole de Dieu, que vous êtes appelés à demeurer ferme. 1 Corinthiens 16, 13. Marchez. 2 Corinthiens 5, 7. Et vivre. Galates 2, 20. Il y a eu un commencement. Puis maintenant, il faut continuer. À demeurer, marcher et vivre. Alors, dit différemment, les choses dites différemment. Georges Müller, qui est un grand artisan du réveil, disait « Les impressions n'ont absolument rien à voir avec la foi. Rien. La foi repose sur la parole de Dieu. Ce ne sont pas nos impressions plus ou moins fortes qui changeront quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est la parole écrite, et non pas nous-mêmes ou nos impressions. La foi est fondée sur la parole écrite. Il poursuit, beaucoup de gens veulent bien croire ce qui leur semble probable. Il y a des chances que... Mais la foi n'a rien à voir avec les probabilités. Le domaine de la foi commence là où les probabilités cessent. Et où la vue et les sens échouent. Quand je parle des sens, c'est nos cinq sens. Nous n'avons pas à tenir compte des apparences. La question est, Dieu a-t-il dit cela dans sa parole? Savez-vous les trois mots les plus importants de la Bible? Trois. Dieu a dit. Si on appuie notre foi sur ces trois mots-là, déjà, waouh! Alors après, il faut savoir ce qu'il a dit. Mais déjà, Dieu a dit. Ainsi, la foi n'opère pas dans le domaine du possible. La foi commence là où la capacité humaine finit, permettant alors à Dieu d'entrer en scène. Lorsque tout semble humainement impossible, c'est cette foi-là à laquelle Jésus regardera à son retour. Et trouvera-t-il cette foi-là à son retour? Par exemple, prenons un exemple de foi pour nous, un bon exemple. Abraham, il a dit qu'il ne douta point. Excusez-moi. Je vais prendre la télécommande. Il a dit qu'Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant pleine conviction que ce qu'il promet, Dieu, il peut aussi l'accomplir. Romains 4, 18-21. C'est un bel encouragement, ça. Ensuite, notre Dieu est le Dieu qui se joue des impossibilités. Luc 1, 37. C'est vraiment encourageant, ça aussi. Le verset suivant, s'il te plaît. Non, ça ne passe pas. Alors, le verset suivant, c'est « Rien n'est trop difficile pour lui. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Amen. Alors, pour ceux et ceux qui cherchent des promesses sur lesquelles s'appuyer, en voilà, hein. Saisissez-vous-en, proclamez-les. J'ai la pleine conviction que ce que tu promets, tu peux aussi l'accomplir. C'est une proclamation personnelle. On fait la promesse, on s'approprie la promesse. Tu es le Dieu qui se joue de toutes tes impossibilités. Je m'approprie la promesse. Rien n'est trop difficile pour toi. Ce qui est impossible aux hommes, t'est possible à toi, mon Dieu. C'est ainsi que la vraie foi s'approprie les promesses de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à simplement à les lire, mais à les laisser descendre vers le cœur et nous les approprier, les faire nôtres. Alors je crois, comme Abraham, que Dieu permet des situations parfois difficiles pour éprouver, tester notre foi et pour nous amener à nous tourner vers lui. Non ? les épreuves, pour nous amener à nous tourner vers lui. C'est d'ailleurs ce que nous dit le psalmiste. Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Psaume 55. Waouh! C'est quelque chose, ça, non? Voilà donc des promesses solides. Et moi, je crie à Dieu et l'Éternel me délivrera. Psaume 55, 17. Solide comme promesse aussi, hein? Il ne faut pas que ça reste uniquement entre nos yeux et la parole, hein? Mais qu'il faut pouvoir se l'approprier et la proclamer. Alors que puis-je faire de plus quand je suis dans un besoin et une difficulté sans solution? Eh bien, je crie à Dieu. Je crie à Dieu, vous entendez? Je crie à Dieu. Je crie à Dieu. Je te crie à Dieu. Je crie à Dieu. Mon Seigneur, tu entends? Je crie à Dieu. À personne d'autre. Et je proclame tout haut, car tu es l'Éternel qui délivre. Rien ne t'est impossible. Et même, et surtout, si je suis incapable d'imaginer la manière dont il agira. Mais je sais qu'il le fera. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est-à-dire que nous mettons en marche, nous marchons, hein. C'est actif ça. Mais se mettre en marche, c'est agir conformément à la parole de Dieu. Et il y a un évangéliste connu qui s'appelle Smith Wigglesworth qui traduit cette parole de Paul par cette devise. Je ne me laisse pas impressionner par ce que je sens. Je ne me laisse pas impressionner par ce que je vois. J'agis uniquement d'après ce que je crois. Je comprends Dieu parce que la parole me dit de lui. Je comprends Seigneur Jésus-Christ parce que la Bible déclare à son sujet. Il est tout ce que la parole nous dit de lui. Amen. Moi je dis waouh, 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 waouh. N'est-ce pas une belle déclaration à proclamer? Sans modération? Lorsque nous sommes confrontés à une difficulté, c'est ainsi que je marche par la foi et non par la vue. Car la parole du Seigneur demeure éternellement, on peut donc s'y appuyer sérieusement, car la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. 1 Pierre 1, 25. Cette parole sur laquelle je m'appuie, c'est celle qui nous a été annoncée par l'Évangile. Et Paul dit, si toutefois nous la retenons telle qu'elle nous a été annoncée, sinon nous aurions cru en vain. 1 Corinthiens 15, 2. Ce serait catastrophique dans ce cas-là. Non? La foi a besoin d'appuis solides. Et elle les trouve non pas à moitié dans la parole infaillible de Dieu, mais elle les trouve en totalité. La foi se repose sur Dieu seul. Dieu a dit. C'est pourquoi Paul nous dit, ne vous tracassez pas et ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des requêtes précises, avec des actions de grâce, Philippiens 4, 6, dans la version amplifiée. Ne vous tracassez pas, ne vous inquiétez de rien. Voilà. Si on s'appuie sur la parole de Dieu. Alors en principe, les chrétiens sont d'accord sur une partie de ce verset. La deuxième. Celle qui dit de prier et remercier. Non ? Pourtant, si on ne respecte pas la première partie, ben, ce n'est pas la peine de mettre en action la suivante. Car sans la foi, c'est-à-dire dans l'inquiétude ou le doute, il est impossible de plaire à Dieu. En effet, peut-on prétendre croire en Dieu et sa parole et en même temps émettre une prière pleine de doute, d'inquiétude, et nous attendre à une réponse? Ce serait contradictoire quelque part. N'oublions pas que la foi, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est la conviction, pas l'inquiétude, la conviction des choses qu'on ne voit pas. Sinon, ce n'est pas la foi. Du moins pas celle que Dieu attend. Ceci dit, je suis comme vous. Il peut parfois sembler humainement difficile de ne pas s'inquiéter. Et pourtant, écoutons ce que nous dit David dans ce type de situation et comment il y remédie. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il était en difficulté, David, quand il dit ça. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Une autre version dit, je n'ai plus peur de rien. Quand on tourne les regards vers lui, vers Dieu, on est rayonnant de joie. Amen. Nous avons tourné les regards vers Dieu ce matin. Étions-nous rayonnants de joie? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve, le délivre, selon une autre version, délivre de toutes ses détresses, le sauve de tout ce qui lui fait peur. L'ange de l'Éternel campe, monte la garde autour de ceux qui le craignent, c'est-à-dire le respectent, et les délivre. Psaume 34, versets 5 à 8. Vous rendez compte ? L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le craignent, de ceux qui le respectent. C'est quelque chose, ça, quand même, non ? Et Dieu les délivre. Et après cela, on serait inquiet ? Après cela, serait-on encore inquiet ? Silence. Oui, si on ne croit pas ce qui est dit ici. David commence par « j'ai cherché ». J'ai cherché. Mais où a-t-il cherché, à votre avis ? Où a-t-il cherché ? Dans la parole. Dans la parole. Tout le psaume 119, dont l'auteur est incertain, mais probablement écrit par David, Esdras, Daniel ou Jérémie, donc par des hommes qui ont rencontré de grandes épreuves, tout ce psaume répond à cette question « Où chercher l'Éternel ?» Et j'en ai sorti que quelques versets. « Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. » Si ta parole n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Verset 92. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Les gens sans expérience, ils trouvent le discernement, capable de bien juger. Verset 130. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Aucun obstacle ne les fait trébucher. Pour eux, plus d'obstacles. Verset 165. La réponse est claire. Cherchez l'Éternel dans la parole, cherchez ses instructions, ses promesses correspondant à la situation que nous vivons. Et alors, si je marche par la foi et non par la vue, toute inquiétude sera levée. Car Dieu dit vrai. Tu as dit. Il n'a jamais, alors Dieu n'a jamais donné un engagement, une promesse qu'il ne tiendra pas, ni encouragé un espoir qu'il ne peut pas satisfaire. Dieu est derrière chacune de ses promesses. Amen. Il faut en être conscient de cela et le croire, non seulement en être conscient, mais que ça descende jusqu'à notre cœur. Il y a un verset qui dit « Il veille sur sa parole pour l'accomplir. » Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dans Jérémie 1, 11. Vous le croyez, cela ? Ouais. Croyez-vous vraiment que Dieu tient parole ? Oui ? Amen, il y a beaucoup d'amen. Il y a, pas partout, hein. Pas partout. Il est vrai que bien des gens disent compter sur Dieu, mais ne vivent pas, ne marchent pas, n'agissent pas selon ce qu'ils déclarent. D'où l'inquiétude. Ne serait-ce pas parce qu'ils ne commencent pas par chercher sa présence, comme David, et ses promesses avant de prier pour leur situation. Non. David dit, j'ai cherché l'Éternel d'abord, et tout le reste en a découlé. Dieu nous invite inlassablement à le chercher. Approchez-vous de lui, et il s'approchera de vous, dit la parole. Ça, c'est Jacques 4, 8. Sachez que faire les choses à l'instinct, selon notre ressenti ou ce qui nous semble bon, ne marche pas. C'est pourquoi Dieu nous instruit. Alors en toute situation, commençons par nous approcher de lui, chercher ses instructions puisqu'il nous instruit. Et seulement ensuite, prier en appuyant notre foi sur du solide, sur ce qu'il nous aura dit. Cette foi, sans inquiétude, puisqu'il nous l'aura dit. J'ai, c'est ma part, cherché l'Éternel, et il, sa part, m'a répondu. Nous avons une part, et si nous respectons notre part, il fera la sienne. Bien trop souvent, nous transformons Dieu en machine distributrice. Ah, j'entendais, c'est vrai. Nous y insérons quelques prières et appuyons sur le bouton Amen. En s'attendant à ce qu'il nous donne ce que nous avons demandé. La prière devient alors de l'idolâtrie. On n'en est pas loin. Ne sommes-nous pas trop souvent, ou parfois, trop concentrés sur ce que nous voulons? Trop obsédé par nos besoins, trop conscient de ce que nous ressentons, nous plaçant ainsi au centre, alors que Dieu attend que nous le placions au centre. Lui et sa parole. Et si nous le plaçons au centre, tout le reste vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez de rien, dit Matthieu 6, 34, 35. Qu'est-ce qu'il a fait? David. Il a mis Dieu au centre. J'ai cherché l'Éternel. Il l'a mis au centre. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi Jacques nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, car vous demandez mal. » Ou une autre traduction qui est pas mal non plus, « Avec de mauvais motifs, des motifs plutôt personnels, de bien-être personnel. » Jacques 4, 3. Alors, à nous de chercher et puis déclarer, avant d'exprimer nos besoins, ta parole, Seigneur, est vraie et je la crois et je refuse de m'inquiéter de quoi que ce soit. Malgré le doute qu'il peut y avoir dans ma tête, je marche selon mon cœur qui s'appuie sur ce que tu as déclaré, ce que tu as dit. Alors seulement, quand j'ai fait comme David, aller chercher l'Éternel, je peux présenter sans inquiétude mes requêtes au Seigneur et le remercier d'exaucement, avant même de voir, puisque Dieu le dit. Car Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4, 17. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc Dieu appelle les choses qu'on ne voit pas comme si elles étaient. C'est cela la foi que Dieu honore. Croire à moitié, vous savez, c'est quelque part de l'incrédulité. Rappelez-vous que parmi les siens, Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de quoi ? De leur incrédulité. Marc 6, 5, 6. Alors, donc, si le doute vient nous troubler, ne cessons pas de revendiquer, proclamer les paroles que nous sommes allés chercher auprès du Tout-Puissant. Si on veut chercher le secours d'Éternel et qu'il nous parle, revendiquons ces paroles. C'est ainsi que la paix de Dieu, c'est-à-dire sans inquiétude, qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire tout raisonnement humain, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Philippiens 4, 7. Ainsi, pour jouir de cette paix promise, rejetons d'abord l'inquiétude, en faisant l'effort de chercher Dieu. Pierre nous parle d'effort. C'est notre part. Et ensuite, de nous approprier et déclarer sa parole. C'est notre part. Et quand j'insiste sur cet impératif, je ne fais en cela que m'appuyer sur les exhortations de Jésus, notamment celle que nous connaissons tous, et je terminerai par cela. Celle-ci. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Darby dit, ce qu'il aura dit lui sera fait. Marc 11, 22, 23. Que rajouter ? S'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit. Et là, ici, Jésus, vous remarquerez, utilise trois fois le verbe « dit ». Il ne dit pas « ce que vous aurez cru, ce que vous aurez cru vous sera fait ». Non, mais « ce que vous aurez dit vous sera fait ». Dieu attend donc de nous notre proclamation à l'unisson de ce que notre cœur a cru. C'est bien ça, non ? prononcer des paroles de foi avec un cœur qui doute, ça ne marche pas. À l'inverse, affirmer, croire du cœur et prononcer des paroles d'inquiétude, ça ne marche pas non plus. Dans les deux cas, c'est faire semblant. C'est douter de la parole de Dieu. Avec lui, il n'y a pas de solde à moitié prix. C'est tout ou rien. Non ? Cœur, parole, action doivent être associés, être à l'unisson. Devant notre montagne, Dieu accomplira ce que je crois et ce que je dis. Oh. Dieu accomplira ce que je crois et dis. Amen. Après, bien sûr, l'avoir cherché, lui, et placé au centre, lui, pas nous. Ainsi en est-il de sa parole. Elle ne retourne pas à lui sans effet. Ésaïe 55, 11. Je reçois sa parole. Je la proclame. Donc elle retourne à lui. Elle ne retourne pas à lui sans effet. Si la parole, je la lis, et puis bon, ça en reste là, elle reste là. Dieu attend de nous qu'elle revienne à lui. Celui qui dira à cette montagne, sans douter, jette-toi dans la mer, qui dit, donc la parole retourne à lui. Alors, donc, il verra s'accomplir ce qu'il leur a dit. Il y a un pasteur qui a fait la remarque suivante et qui me plaît bien. La foi a trois lieux de résidence. La foi a trois lieux de résidence. Dans notre cœur, c'est le lieu où on s'approprie la parole. Notre bouche, c'est le lieu où on déclare. Et nos mains, notre être, c'est là où on agit, où on se met en marche. Alors si je peux résumer ainsi la démarche de foi que Dieu agrée et honore, 1. Je cherche en m'approchant de Dieu. Pour mieux le connaître et ce qu'il a à me dire. Je cherche dans ce but-là. Ensuite, 2. Je crois du cœur, c'est-à-dire que je m'approprie ce qu'il a dit, pas ce que je vois, pas ce que je ressens, mais je m'approprie ce qu'il a dit. Je crois du cœur. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Vous trois, vous le connaissez, hein ? Je déclare, je proclame, je prie, je mets en action la parole ou la promesse reçue. Je prie, je mets en action. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ah. Quand j'ai fait tout ça, que j'ai cherché, que j'ai cru, que je suis approprié, que j'ai déclaré, prié, mis en action ma foi, qu'est-ce qui se passe ? Dieu agit. Et s'il agit, qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien, mais encore. Qu'est-ce que vous attendiez ? Je reçois. Je reçois. Et si je reçois, qu'est-ce que je fais ? Je remercie. Et je vois. Et le cas échéant, je persévère. Parce que je regarde non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Corinthiens, 2 Corinthiens 4, 18. Parce que je marche par la foi et non par la vue. Parce que Dieu appelle les choses qu'on ne voit point comme si elles étaient. Et elles se manifestent. Dieu le dit. Est-ce que j'y crois ou pas? C'est pourquoi Dieu peut se permettre de dire « Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41:10. Amen. Alors, sommes-nous prêts à prendre la parole de Dieu, les paroles de Jésus, au sérieux? Et là, je reprends le titre d'un livre. Le livre, c'est « Prenez-vous les paroles de Jésus au sérieux ». Sommes-nous prêts à prendre la parole de Dieu, les paroles de Jésus au sérieux, sans nous dire, quand on prie, « Bon, je prie, et je verrai bien ce qui va se passer. » C'est la foi, ça? Mais en croyant du cœur et en proclamant de la bouche ce que Jésus dit, tel qu'il le dit. Le psalmiste exulte de joie en disant, psaume 138:2, « Tu as surpassé ta réputation. » Il parle à Dieu. « Tu as surpassé ta réputation. » Une autre traduction, « Tu as surpassé ta renommée. » dans l'accomplissement de tes promesses. Psaume 138:2. Que puis-je dire d'autre? Si ce n'est que pour ceux et celles qui sont dans cet état de cœur et d'esprit et qui souhaitent que nous prions pour elles ou pour eux, avancez-vous devant, nous allons prier et nous prierons courtement comme Jésus le faisait et disait, quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles en vous imaginant qu'à force de paroles, vous serez exaucés. Matthieu 6, 7. Alors ceux et celles qui sont dans l'état de cœur que nous venons de décrire et d'esprit et qui souhaitent que nous prions pour elles et pour eux, approchez-vous devant. Et nous allons prier.